Tranche de vie. Petit vagabondage dans nos existences. Amis auditeurs de Radio Libre en Périgord, vous savez que l'émission Tranche de vie est destinée à montrer que chacun d'entre nous est quelqu'un d'un peu exceptionnel par ce qu'il a rencontré, ce qu'il a traversé au cours de son existence. Aujourd'hui, je suis en présence d'une personne vraiment exceptionnelle, Denis, qui va nous raconter comment il est venu en Périgord et quelles ont été les occasions tout à fait exceptionnelles qu'il a traversées au cours de sa vie. Denis a 94 ans et je remercie beaucoup d'avoir accepté de parler pour RLP. Je remercie également Pierre Bernardin qui est là avec nous et qui est la personne qui m'a orienté vers Denis en me disant qu'il fallait absolument le faire parler. Donc on est là pour vous faire parler, pas comme la Gestapo, mais plus gentiment. Denis, Pierre Bernardin m'a dit que vous étiez d'origine italienne.
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos origines?
Les origines, là, je suis né en France, vous voyez. Mes parents étaient italiens et moi, je suis né en France. Je suis né à Bellegarde sur Valserine.
Et alors, dans quelles circonstances vos parents sont-ils venus en France?
Ils sont venus en France parce que j'étais contre Mussolini. J'étais un antifasciste, là.
On est dans les années 30. Ouais. C'est la grande période du fascisme mussolinien. Ouais. Et vos parents décident de quitter l'Italie à cause du fascisme.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et ils sont venus s'installer à Bellegarde.
Voilà, oui.
Dans un premier temps.
Dans un premier temps, je suis installé à Bellegarde début de la... Dans le nord, oui.
Dans les mines, voilà. Et il est descendu en Bellegarde en 1932.
Voilà, c'est ça. Voilà, oui. Il était dans les mines, il était où c'est que ça s'appelle?
C'était dans les mines de charbon du Nord.
C'était les mines de charbon, oui.
Mais ça, c'était son métier. Il était déjà mineur lorsqu'il était en Italie.
Italie, oui.
Ah, d'accord. Donc, il a trouvé facilement à s'employer dans les mines de charbon du Nord de la France.
C'était dans les mines de charbon en Italie. Et puis, alors, après, là, ils sont partis d'Italie, là, parce que là, ils s'étaient... un peu fâché avec la milice de Mussolini, là, vous voyez.
Ils étaient inquiétés, voilà, pour leurs opinions.
Il a été interné, même.
Ah, ouais. Oui.
Mais... Et il était marié avec une jeune femme qui était la fille d'un fermier.
Voilà, c'est ça.
Et donc, sa femme travaillait à la ferme, et lui allait à la mine, et c'est le curé qui l'a fait évader, qui a fait évader ton père, et qui avait certainement une filière qui lui a permis de passer la frontière avec quelques autres républicains.
Ouais, c'est ça, oui.
À partir de quand est-ce que vous avez des souvenirs de votre vie en France?
Des souvenirs de ma vie en France, ça a commencé quand on était à l'état d'effort. À l'état d'effort, dans la commune de Gros-Signol.
Parce que j'étais arrivé... Vos parents sont venus s'installer ensuite en Périgord.
J'étais arrivé à la chapelle Grésignac, vous voyez. Et à la chapelle Grésignac, on est resté un an et demi, deux ans, vous voyez. On était chez un monsieur, qui s'appelait Monsieur Valade, que c'était un ancien gendarme, vous voyez, qui avait une petite ferme.
vos parents sont venus travailler sur cette ferme.
Voilà.
Tu m'avais dit aussi que ce gendarme, ton père avait fait sa connaissance à Bellegarde.
Voilà,
et que c'était devenu un ami, et il lui avait proposé de s'installer en Périgord et de travailler dans cette ferme.
Alors, votre papa, vos parents, ils sont comme ça, ils sont devenus fermiers, mais vous m'avez dit que votre maman travaillait déjà sur une ferme, donc elle connaissait le travail.
Elle connaissait un peu le travail, mais mon père connaissait rien du tout. Lui.
Ah, donc il a fallu qu'il se mette, transforme de mineur en fermier.
Voilà. Et alors après, là, je me souviens qu'on est parti à l'étang des forts, chez un monsieur, un nommé monsieur Lague.
Oui, j'avais noté que quand la ligne de démarcation a été créée pour protéger Bordeaux et le futur mur de l'Atlantique, il a fallu que tes parents changent passent de l'autre côté de la ligne.
Voilà.
Ils sont toujours restés sur la commune de Gourcourt-Signol, mais en zone libre, à l'étang des forts.
Hein.
Parce qu'ils avaient la possibilité de passer en zone libre, mais parce qu'ils se sentaient menacés à cause de leurs opinions ou de leur anti.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est ça, ouais. Et alors après, on est allé au château de Beauregard.
Oui.
Mais on n'était pas dans le château, on était dans la ferme qui se nomme.
Le Maine.
Le Maine de Beauregard, voilà. Et on y est resté. De 1940 jusqu'à 1947.
Alors là, les choses se corsent, là, parce que là, c'est le début de vos aventures.
Voilà.
Hein? Donc là, en 1942, vous avez eu 8 ans.
Et
votre papa, il va travailler avec les résistants.
Voilà, ouais.
Et alors comment ça s'est fait? Qu'est-ce qu'il faisait?
Ah ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la ferme et il faisait venir des légumes, des volailles pour les nourrir.
Vous, comment, bien sûr, vous aviez l'exemple de vos parents, vous rencontriez peut-être quelquefois des résistants.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer comme ça dans ce travail de résistance? Et qu'est-ce que vous avez fait?
Je ne sais pas trop. Je suis allé deux fois avec ma pauvre mère. Vous avez le plan là. Le plan où je devais circuler là, vous voyez?
Oui, avec
j'avais fait deux fois le circuit. Avec ma pauvre mère, là, du Maine de Beauregard à Chaval.
D'accord.
Et alors, un jour, en revenant de ce passage, vous voyez, c'était là, voilà la route que je faisais, vous voyez, ce bleu-là.
Oui.
Voilà.
Ça, c'était votre chemin.
C'était mon chemin.
Alors là, qu'est-ce que vous faisiez là?
Tu le faisais tout seul après.
Voilà. Alors ma mère m'a dit, si je me souvenais de ce parcours-là.
Oui.
Et j'ai dit oui. Voyez. Mais j'avais 10 ans.
Oui.
Alors, la semaine d'après, elle m'a dit, eh ben, il faut que tu ailles chercher le pain.
D'accord.
Le boulanger de Chaval, il était bien avec les bâches, tout en étant contre eux, vous voyez. Ah. Les tout premiers temps, je ne faisais que le pain, là.
Oui.
J'ai fait ça pendant 2-3 mois.
Oui.
Et puis, les résistants qui venaient régulièrement à la maison manger le soir ou passer la nuit, là, vous voyez. Ou se cacher même quand les Allemands arrivaient à l'improviste à la maison, vous voyez. Parce que, mais on était en zone libre, mais les Allemands venaient assez régulièrement à la ferme, vous voyez. Je ne sais pas s'ils avaient des doutes ou quoi, là. Mais un jour, il y a un résistant qui m'a dit, si on te donne un papier, est-ce que tu l'amènerais? Pendant le truc.
Oui.
Moi, connaissant pas le papier, là, je ne savais pas ce qu'il y avait sur le papier. parce que je ne savais, pas lire à ce moment-là.
Ah bon.
J'ai appris à lire au régiment, vous voyez.
Et donc vous n'alliez pas à l'école? Et vous avez appris à lire, à écrire quand vous étiez au, quand vous, pendant votre service militaire.
Voilà, oui.
Est-ce que vous vous souvenez de ces de petits voyages là pour transporter
passages, là.
Tu m'as bien dit que c'est ton père qui te mettait le message dans le sabot.
Ouais.
Et que quand tu passais la ligne de démarcation, les Allemands étaient gentils avec toi. Ils levaient la barrière.
À part quand il y avait les
quand tu as été arrêté.
Voilà.
Donc vous transportiez, alors là, vous portiez des sabots.
Voilà.
Ça, vous avez
des sabots en bois.
Sabots en bois, d'accord.
Ouais.
Et donc là, vous avez plutôt un mauvais souvenir des Allemands lorsque vous les avez rencontrés, qui vous contrôlaient, en particulier DSS.
Parce que les autres, là, les vieux Allemands, là, ils étaient pas cool, quoi.
Oui.
Mais ils n'étaient pas merdants. Mais alors, l'école noire, pour vous dire que là...
C'était soupçonneux.
Voilà.
Soupçonneux, oui.
Voilà. Et alors, souvent, ils me posaient des questions, là, à l'école noire. Là,
oui.
Ils me disaient, pourquoi tu viens chercher le père à Cherval, que t'as trois boulangers à Marais. Voilà.
Et le pain était important pour l'alimentation
pain,
à l'époque.
Et le pain était très important.
Oui,
merci. Et alors, il y avait ce boulanger de Cherval, là, que lui, là, il nous donnait...
Enfin, c'était quand même un prétexte. Ton père voulait faire passer des messages de l'autre côté de la ligne de démarcation.
Voilà.
Et donc, vous avez été arrêté.
Tout un après-midi.
Et les gens vous ont gardé comme ça parce qu'ils se méfiaient de vous.
Tout un après-midi.
Ils pensaient que vous faisiez quelque chose de difficile.
Et cet officier allemand qui parlait très bien le français, j'ai toujours pensé que c'était un français.
Il vous a interrogé.
Qui m'interrogeait, mais qui était dans l'armée allemande.
Ça serait bien que tu racontes quand même quand l'officier SS a voulu rentrer dans la grange.
Donc là, les
Allemands. L'officier allemand, là, qui est arrivé, là, et qui parlait très bien français aussi, et il a dit qu'il voulait visiter la grange, vous voyez, au Maine de Beauregard. Et dedans, il y avait la moissonneuse religieuse, vous voyez, parce que c'était quand on est au mois de septembre, vous voyez.
Oui.
Et elle était rentrée dans la grange, et puis il y avait de la paille, que le blé était battu, on avait mis la paille. Et elle a envoyé la liaise, mais elle était fermée sur les côtés, vous voyez, par la paille d'un côté et l'autre. Et alors, dessous, là, sous la barre de coupe là, où le blé tombe, vous voyez, c'est une tôle là. Et dessus, il y a des toiles qui montent comme ça. Et en montant, il y a deux toiles. Il y a une toile qui monte et l'autre qui monte à l'envers pour faire l'aspirateur, pour monter au lieu, vous voyez. Et alors, il y avait deux résistants là.
Oui.
Qui était caché dessous la liaise. Et là, s'il y en avait qui aurait toussé ou quelque chose, on y passait tous.
Tu m'avais raconté aussi quand les deux SS sont rentrés dans la salle de l'école.
Ah oui, là aussi, là, oui. Là, c'était le jour que... C'était aussi en 1943. C'était quand... le jour qu'il y avait la réquisition des chevaux, là, vous voyez, parce que la
réquisition des chevaux,
plus de deux chevaux, ils prenaient tout ce qu'il y avait en plus de deux chevaux, vous voyez. Les deux chevaux, ils les laissaient pour travailler, pour labourer, pour forcher tout. Mais ceux qu'il y avait en plus de deux, ils les prenaient et ils amenaient en Allemagne pour les faire. Et alors, dans l'après-midi, quand c'est arrivé l'heure de la récréation, voilà que deux Boches arrivent là. dans la classe. Et ils sont restés jusqu'au moment qu'ils sont partis là. Ils faisaient des allers-retours dans l'allée.
Ils
oui,
nous observaient,
ils nous regardaient.
Ils essayaient de vous intimider.
Voilà. Oui.
Alors la guerre s'est terminée. Comment ça s'est terminé pour vous? Est-ce que vous avez un souvenir de la libération? Comment ça s'est terminé pour vos parents? Vous avez vu arriver les Américains, les Français?
Quand le jour du 8 mai 1945, là, mais là, nous, on était déjà libérés depuis le 19 août 1944. Voyez.
D'accord.
Parce que les Allemands étaient partis de
la retraite.
Les Allemands étaient partis de la Dordogne. Mmh. Mais le 19 août 1945, on avait fait la fête pendant au moins 3 jours dans l'église de Saint-Pardoux de Marailles.
Voilà. Et là, vous en avez vraiment un bon souvenir.
On a fait sonner les cloches jour et nuit.
Oui. Après la guerre, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, vous êtes entré dans l'adolescence et comment vous avez commencé à travailler?
Dans l'adolescence, j'ai commencé à travailler à la ferme.
À la ferme, avec vos parents.
Oui, voilà.
D'accord.
Voilà, mais on était venu à Mincignac.
D'accord.
On n'était pas loin là, voyez.
Ah, vous avez encore changé.
Voilà.
D'accord.
Et on est resté à Mincignac jusqu'en 1960.
D'accord.
Et de 1960 à maintenant, je suis là, voyez.
Ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que avec la jeunesse que vous avez eue, eh bien, vous avez eu ce qu'on peut appeler le malheur de participer à la guerre d'Algérie.
Voilà, c'est ça.
Alors, dans quelles circonstances avez-vous été mobilisé et envoyé en Algérie? À quel moment?
J'ai été mobilisé en 1956, voilà, le 15 mars 1956.
Oui.
On a été cantonné à la Courtine pendant un mois et demi. Là.
Oui.
Et puis, alors on nous a fait des vaccins, là, tous les vaccins qu'il fallait pour partir dans les colonies, là. Que ça m'avait bien rendu malade d'ailleurs.
Oui.
Et un soir, il y a le capitaine là qui. Mais je connaissais très bien le lieutenant que vous avez connu aussi, et Pierre aussi, il l'a connu, et qui était président de la République, mais qui était sous-lieutenant, et qu'on était du même âge tous les deux. C'était. Le président de la République avant Sarkozy.
Chirac?
Avant Sarkozy.
Voilà.
Chirac. Ah, mais c'est vrai que c'était. Oui, la Cour. D'accord.
Et alors,
tu avais écrit à Chirac.
Oui, j'avais écrit d'ailleurs. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait avoir ma carte d'ancien combattant.
Oui.
Parce qu'à Périgueux, tout le monde me l'a refusé, la carte.
Vous avez passé combien de temps en Algérie?
J'ai passé.
Mais ça veut dire qu'il avait été incorporé comme auxiliaire.
Voilà.
C'est pour ça qu'il lui avait refusé.
D'accord.
Et il le faisait systématiquement.
Ouais.
Et il a écrit au président Chirac.
Et que lui m'a fait.
Vous aviez été incorporé comme auxiliaire à cause de vos obligations familiales ou vos...
Non, c'était à cause d'un accident.
Ah, vous aviez. D'accord.
Quand j'étais jeune.
Qui limitait, votre validité.
Voilà. On m'avait mis auxiliaire des parachutistes. On m'avait pas mis auxiliaire de tous les régiments, mais j'avais demandé les parachutistes. Vous voyez.
Ils n'ont pas fait sauter quand même.
Voilà. J'ai jamais sauté.
Non.
Et alors, un soir, là, on était tous dans la cour, là, alors le capitaine qui arrive en gueulant, là, allez, vous montez tous dans vos pierres. Et vous redescendez avec vos pactages.
Ah.
On part en manœuvre. Il y avait. Quand j'étais très copain avec lui, là, il était de ses mères de Gursa, vous voyez.
Mm-hmm.
On était les deux seuls de la Dordogne à être à la Courtine.
Oui.
Voilà.
Attends, auparavant, tu ne savais ni lire ni écrire, mais à l'armée, tu as appris à lire, à écrire, et tu as lu toute ta vie.
Le fait d'avoir appris à lire et à écrire, ça a changé votre vie ?
Ah oui, ça a changé ma vie complètement.
Alors, quel souvenir avez-vous du temps que vous avez passé en Algérie ? Vous n'êtes jamais allé en opération ?
Ah si, je suis allé souvent en opération. Et c'est pour ça que Chirac, il m'a fait obtenir la carte d'ancien combattant, parce que j'allais en opération.
Tu m'avais raconté d'ailleurs, alors que tu étais de garde, que tu as sauvé la vie à tous les membres.
Au peloton que j'étais.
Oui. Voilà.
Mais quel sentiment avez-vous eu en participant à la guerre d'Algérie ?
Ah ben, c'était une sale guerre, hein.
Oui.
C'était vraiment une sale guerre, parce qu'on ne savait jamais quand on allait être attaqué, vous voyez.
Oui.
Parce que toutes les fois qu'on a été attaqué, ça a été des surprises, vous voyez.
Et vous aviez le sentiment de participer à une guerre juste ?
C'est dur à dire parce que les Arabes étaient très mal payés, vous voyez.
Ceux qui étaient dans l'armée française.
Non, les travailleurs.
Ah, d'une manière générale, oui.
Les travailleurs en général.
Oui.
Ils touchaient 4 francs CFA par jour.
Oui, c'est ce qu'on appelait faire suer le burnous.
Voilà. Et ils travaillaient du jour à la nuit, vous voyez.
Oui.
Et puis, il faisait très chaud en plus.
Oui.
Et la nuit, il faisait très froid.
Globalement, vous avez un bon souvenir ou un mauvais souvenir de cette expérience qui a duré quand même un bon moment, hein.
Ça a duré longtemps, oui. Depuis le début de la guerre, c'était 7 mois et demi.
Oui, d'accord. Oui, parce que vous étiez avec les appelés, alors.
Voilà, avec les rappelés.
Ah, rappelés.
Oui, parce que j'étais appelé de 52 à 54 en France.
D'accord, c'est là où vous avez appris à lire et à écrire.
Après, j'étais démobilisé et rappelé.
Rappelé.
Voilà.
Alors, vous en êtes tiré ?
Oui, j'ai pas mal tiré. J'étais sous le feu d'un fusil mitrailleur. Et que les collègues, là, c'était une patrouille de reconnaissance pour la ville, vous voyez. Mm-hmm. Qu'on faisait le tour de la ville 2 ou 3 fois au tombé de la nuit, là. Et puis, sur le coup de 23h, on rentrait au camp, là. Quand on n'était pas de garde, on rentrait au camp, on se couchait, vous voyez. Et alors, ce jour-là, j'avais eu... La nuit d'avant, j'étais de garde, j'avais eu trop froid, très froid, vous voyez. Et puis là, le lendemain, j'avais la dysenterie. Et c'était, quand on avait la dysenterie, c'était pas rigolo. Hein. Et alors, j'avais dit au lieutenant, là, que je pense qu'il est toujours en vie, là, parce qu'il doit être de même âge que moi, là. Et apparemment, il serait là d'Ordogne. Et il me dit, bon ben, il a dit, tu viens avec nous, là, et puis, quand tu auras envie de faire, tu t'arrêtes, et puis, on s'arrêtera aussi, là, et puis après, quand tu auras fini, on repart. Mais je partais toujours, comme j'étais célibataire, moi et puis le collègue de Semeyard de Gursa. On était célibataires tous les deux. Tous les autres étaient mariés.
Ah.
Et on était les éclaireurs de pointe, vous voyez. Et on marchait, bon, en allant 300 mètres devant les autres, vous voyez. Et alors, quand on avait fait les 300 mètres, on avait une lampe torche, là, qu'on donnait des petits coups de machin pour leur dire que c'était une convention qu'on avait entre nous. Quand on faisait 2 coups, là, ils pouvaient venir. Et tant qu'ils venaient où nous étions, nous, on allait plus loin. Voilà.
Oui.
On était loin du camp, là, comme d'ici, là, quand vous avez pris le fond de la grande côte, là, vous voyez, là, en arrivant, là, que ça descend, là. On était là, et le camp était un peu plus loin. On disait, mais on ne disait pas, on va aux toilettes, on disait tout le temps, on va chier, hein. On peut dire, j'ai envie de chier. Eh bien, ils disent, tu chies. Et puis eux, ils partent. Et puis moi, j'étais tout seul en train de... Et alors, quand je me suis relevé là pour me rhabiller, là, bien sûr, il a fallu que je me recouche aussitôt, là, parce que là, le fusil mitrailleur. Et c'était les fers qui étaient là, vous voyez, et qui me tiraient dessus.
Après, vous êtes revenu dans la vie active, et qu'est-ce que vous avez
alors été? Après, dans ma vie active, en 1960, j'ai arrêté, et je suis rentré à la SNCF.
D'accord.
Et je suis rentré à Lyon-Guillotière, vous voyez, sur les voies ferrées.
Ah, sur les voies ferrées.
Voilà, ouais. Et 3 ans après, je suis revenu à Périgueux. J'étais toujours sur les voies ferrées, vous voyez.
Enfin, ça, ce n'est pas le travail le plus facile de la SNCF. Non, là, vous avez dû avoir chaud et froid.
Travail très crevant.
Ouais.
Et tu as toujours milité dans les syndicats, les associations d'anciens combattants.
Ouais.
Tu as été porte-drapeau.
Oui, voilà. Et je suis depuis 1976 porte-drapeau, vous voyez.
1976.
Le 8 mai cette année, ça fait 50 ans que j'étais porte-drapeau. Et que j'ai demandé l'autre jour, j'avais demandé à des officiers pour savoir si je pouvais prétendre avoir la plaque des 50 ans, malgré ma maladie que j'ai maintenant, voyez. Parce que j'ai quand même fait 12 associations de porte-drapeau, vous voyez.
Et vous êtes chevalier de
l'Ordre national du mérite.
Ordre national du mérite.
Ils ne m'ont pas monté chevalier. Il y a le président, là, comment il s'appelle, Amoureux.
Jou Amoureux.
Qui me disait l'autre jour, il me disait, tu aurais dû avoir la Légion d'honneur. Je suis heureux d'avoir l'Ordre national du mérite.
Sans l'avoir demandé, en 2019, à l'âge de 87 ans, j'étais nommé dans l'un de nos deux ordres nationaux, que sont la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite. Cela par un décret du président de la République. Au nom de Monsieur le président de la République, je vous fais chevalier de l'Ordre national du mérite. M'a dit le général, en me remettant les insignes. Et moi, je sentais à ce moment-là, sous mon pied, le message que mon père avait glissé dans mon sabot. Tu me l'avais dit, ça.
Ouais.
C'est sur cette conclusion émouvante que nous allons terminer cette interview. Denis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite, au nom de ma radio, une très bonne année, une très bonne santé.
Merci beaucoup.
Et puis,
à vous aussi.
Et merci. Et je vous admire beaucoup d'avoir conservé si fraîchement tous ces souvenirs de votre existence mouvementée. Merci encore, Denis. Merci à Pierre.
Ça a été très bon. J'ai eu une vie très mouvementée.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.